Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le magazine du week-end, c'est samedi et dimanche, 1h20 de décryptage de l'actualité, aussi bien nationale qu'internationale. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 14h et pour toujours sur franceculture.fr à la écoute et en podcast. Le ministère de la Culture a 60 ans, c'est en effet le 24 juillet 1959 qu'André Malraux est devenu le premier ministre des Affaires culturelles. Depuis, s'est affirmée en France une certaine idée de la culture et du rôle de l'État, mais aussi des collectivités territoriales et plus récemment des entreprises privées. Malgré les ambitions réaffirmées cette semaine de l'actuel ministre Franck Riester, la crainte et les craintes s'amoncellent rue de Valois. À 60 ans, le ministère de la Culture bat-il en retraite? On en parle à 13h15. Mais avant cela, rencontre avec Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue et coprésidente du GIEC, qui nous a accordé un entretien enregistré vendredi alors qu'une vague de canicule s'est abattue sur la France. Un rapport vient de confirmer le caractère inédit du réchauffement climatique. Climat, des signes qui ne trompent plus, c'est notre première partie du magazine du week-end.
J'ai de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles concernant l'urgence climatique.
Avec 42,6 degrés affichés, Paris est devenue la troisième capitale la plus chaude dans l'histoire de l'Europe.
Voyez ces 40 degrés qui vont se multiplier.
Canopée entièrement brûlée.
Masse d'air caniculaire.
C'est une lutte acharnée depuis 24 heures.
Un stress hydrique extrêmement important.
48 degrés. 46,7 degrés.
Au cœur de cette forêt du centre du Portugal, 1300 pompiers progressent à travers une fumée épaisse.
Je vous invite à lire la page 108 du chapitre 2 du dernier rapport du GIEC. Vous trouverez le chiffre du budget carbone qui reste à notre disposition. Le rapport dit que si nous voulons avoir 67% de chances de limiter l'augmentation des températures en dessous d'1,5 degré, nous avions au 1er janvier 2018 420 gigatonnes de CO2 qui restaient dans notre budget. Ce budget qui nous reste sera complètement épuisé d'ici 8 ans et demi.
Selon plusieurs études, le niveau des océans pourrait grimper d'un mètre d'ici 2100.
Ce week-end, on a appris que le Groenland avait perdu 2 milliards de tonnes de glace en une journée.
Et pas une seule fois, n'ai-je entendu un politique, un journaliste ou un chef d'entreprise mentionner ces chiffres. C'est comme si vous ne saviez même pas que ces chiffres existent. Unissez-vous derrière les scientifiques. Merci.
Après l'épisode caniculaire de cette semaine qui a vu des records de chaleur battus dans une cinquantaine de villes en France, faut-il faire le lien entre météo et climat? La réponse à cette question n'a rien d'évident. C'est que depuis plusieurs années, les scientifiques qui alertent sur le réchauffement climatique et son origine humaine ont bien pris garde de distinguer les deux. Les climato-sceptiques aiment en effet à railler les Cassandres dès que le thermomètre descend en dessous de zéro, comme encore l'hiver dernier le président Donald Trump à l'occasion d'une vague de froid s'abattant sur le Midwest et qui en appelait ironiquement au retour rapide du réchauffement climatique. Pourtant, la météo de ces derniers jours pourrait bien être finalement la meilleure alliée de celles et ceux qui appellent à une véritable prise de conscience globale et à des actions politiques, à l'instar de l'activiste suédoise Greta Thunberg qu'on entendait à l'ouverture de cette émission, car elle a été reçue cette semaine à l'Assemblée nationale. C'est ce que le philosophe Dominique Bourg appelle l'effet mammouth. Tant que les humains ne se sentent pas directement menacés, comme ils le seraient par une charge de mammouth, difficile de les faire bouger. Et c'est ce qui est peut-être en train de changer et de changer partout, comme la montré pour la première fois une étude menée par des paléoclimatologues, une étude qui confirme le caractère inédit du réchauffement climatique actuel. Ils ont pu retracer 2000 ans de variation des températures à l'échelle planétaire et montrer son caractère donc inédit à la fois du fait de son amplitude et de sa vitesse, mais aussi par son caractère universel, un réchauffement partout sur la planète au même moment. Climat, des signes qui ne trompent plus, c'est le sujet aujourd'hui avec une seule invitée, mais une invitée de marque, Valérie Masson-Delmotte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléoclimatologue, coprésident d'un des groupes de travail du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Vous avez à ce titre coordonné d'ailleurs, co-coordonné, la rédaction du rapport spécial sur les 1,5 degrés de réchauffement planétaire dont on avait beaucoup parlé, c'était à l'automne dernier, à l'automne 2018. Je le disais, il y a un consensus scientifique qui s'est construit ces dernières années sur un réchauffement climatique d'origine humaine. Qu'apporte cette étude internationale, cette étude donc de paléoclimatologue, qu'est-ce qu'elle apporte sur de la connaissance, la compréhension et peut-être même la prise de conscience de ce qu'on est en train de vivre?
Ben c'est une étude qui fait le point sur l'état des connaissances vis-à-vis de la température à la surface de la Terre. C'est un des indicateurs de l'état du climat. Sur les derniers 2000 ans, donc une période relativement longue, et en comparant toutes les méthodes statistiques qui sont utilisées pour, à partir des indices que le climat laisse dans différentes archives naturelles, estimer ces variations planétaires. Et donc c'est une étude robuste, complète, les bases de données sont en ligne en fait, hein, pour accéder à ces sources d'informations, qui montrent le caractère vraiment exceptionnel de ce qui se passe.
Donc, exceptionnel parce que global, rapide et homogène.
Exceptionnel en termes d'intensité, on sort complètement de la gamme des variations de température des deux millénaires précédents. Exceptionnel en termes de vitesse sur une échelle d'une cinquantaine d'années. Et enfin exceptionnel en termes de signature spatiale. Dans le passé, il y a eu des variations naturelles du climat, des épisodes plus doux, plus frais, en Europe ou ailleurs, mais ils n'étaient pas nécessairement synchrones. Et c'est ça la grande différence avec ce qui se passe aujourd'hui, ce réchauffement planétaire, qui s'explique par le fait que, finalement, depuis la révolution industrielle, nous perturbons profondément le bilan d'énergie de la Terre. En ajoutant des gaz à effet de serre, on piège de la chaleur qui ne part plus vers l'espace. Et c'est ce qui provoque ce réchauffement à la surface des continents et dans les océans.
Oui, vous avez rappelé que par le passé, puisque vous vous tournez beaucoup vers le passé, mais un passé lointain, 2000 ans, c'est presque avant-hier pour vous, évidemment, Valérie Masson-Delmotte. On rappelle souvent, en tout cas certains climato-sceptiques aiment à rappeler que par le passé, voilà, le Groenland s'appelle Groenland parce qu'il était vert, qu'il y a eu un petit âge glaciaire en Europe entre le 14e et le 19e siècle. Bref, que c'est variations de température, elles ont toujours existé. Cette étude, elle montre que ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est qu'elles existent absolument partout. Et donc, ça balaye définitivement, s'il devait en rester, les quelques rares arguments sur lesquels s'appuient ces climato-sceptiques.
En fait, souvent, ceux qui veulent semer le doute par rapport à la réalité de ce réchauffement et notre responsabilité dans celui-ci, ils ont une tendance à prendre la partie pour le tout. Et donc, ils vont par exemple prendre les variations du climat en Europe en suggérant qu'elles reflètent les variations planétaires. Donc, si on prend par exemple la période médiévale, oui, il y a eu des conditions plus douces en Europe. Il y a eu des conditions un peu plus douces, mais en fait pas tellement au Groenland. Au Groenland aussi, aujourd'hui, le réchauffement actuel sort complètement de la gamme des derniers 1000 ans. Et on le voit très bien à partir de l'étude des carottes de glace. Mais surtout, cette période médiévale, les variations de température, elles n'étaient pas synchrones entre, par exemple, l'hémisphère nord et puis l'hémisphère sud, ou en particulier l'Antarctique.
Voilà qui est dit, Valérie Masson-Delmotte. Pour comprendre un petit peu ce que vous faites, vous les paléoclimatologues, et puisqu'il y a cette étude qui est sortie récemment, il s'agit de regarder donc le climat passé. Pourquoi ? Pour essayer de comprendre un petit peu comment va évoluer le climat futur, réussir à comprendre les modèles, à modéliser un petit peu l'avenir, l'avenir du climat ?
En fait, moi je pense que ça part d'une curiosité fondamentale, c'est-à-dire comment le climat a fluctué dans le passé et pourquoi. Et on peut le voir aussi de la manière suivante. Finalement, étudier les climats passés, c'est avoir accès à un ensemble d'expériences naturelles sur le climat de la Terre. Le climat de la Terre, la circulation de l'atmosphère, les océans, la végétation, la surface des continents, les glaces, le cycle du carbone, tout ça, c'est ce qui fait la machine climatique. Et donc cette machine climatique, même si rien ne bougeait autour d'elle, crée des fluctuations, une variabilité liée au vent, au courant marin. Et donc c'est important de le décrypter, de le connaître, de le caractériser. Et puis cette machine climatique, elle réagit quand on perturbe le bilan d'énergie de la Terre. Donc par exemple, lorsque à long terme, la trajectoire de la Terre change par rapport au Soleil, ça répartit différemment l'ensoleillement selon les saisons, les latitudes, et c'est le moteur des glaciations. Et puis après, on a des phénomènes amplificateurs qui se mettent en route. Et ces phénomènes amplificateurs, c'est les mêmes finalement qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Comprendre les variations climatiques passées, la réponse du climat par exemple à des éruptions volcaniques, c'est un des facteurs clés de la variabilité au cours des derniers 2000 ans. c'est arriver à caractériser ces phénomènes amplificateurs et comprendre finalement les rouages, les mécanismes de la machine climatique. Et donc le climat, on l'étudie comment ? On l'observe aujourd'hui, on l'observe avec des mesures directes, on l'observe depuis l'espace, sur une période assez courte. Donc les enregistrements sur le temps long, ils nous permettent de situer les changements récents sur un contexte plus large et comprendre à quel point la situation actuelle est différente des variations précédentes.
Oui, parce qu'il y a bien des enregistrements depuis quoi ? Un siècle et demi
150 ans à
voilà,
peu
150
près,
ans, oui. Mais vous remontez bien plus loin.
Comment, on remonte à l'échelle
avec la glace,
de l'histoire
vous l'avez
de la
dit,
Terre.
Avec,
On remonte à l'échelle de l'histoire de la Terre, en particulier dans les enregistrements géologiques sur les continents, dans les roches ou bien les sédiments marins sur des dizaines de millions d'années. Et avec les glaces de l'Antarctique, par exemple, aujourd'hui, on remonte jusqu'à environ 800 000 ans. Mais la communauté qui travaille sur ces glaces, faudrait remonter même vers 1,5 million d'années. C'est un des grands programmes internationaux à l'œuvre en ce moment.
Ça donne le vertige.
Et surtout, en fait, ces climats passés, on s'en sert comme des sortes de bancs d'essai. C'est-à-dire qu'à partir de la compréhension des transferts de rayonnement dans l'atmosphère, de la mécanique des fluides, on a développé depuis l'après-guerre, donc à partir de la théorie finalement de la physique, une représentation en trois dimensions de l'atmosphère. Donc c'est la même chose que ce qui sert à prévoir le temps. Et puis on y ajoute une représentation des océans en trois dimensions, une représentation de l'hydrologie des sols, de la végétation simplifiée, de la chimie de l'atmosphère, et puis un peu des glaces, pas toutes. Et donc c'est ce qu'on appelle des modèles de climat. Et ces modèles de climat, on les met au point sur le climat actuel. Ils ont une base physique très solide, mais les processus de petite échelle, on les représente de manière simplifiée. On ne va pas calculer chaque goutte d'eau, chaque cristal de glace dans chaque nuage. On va représenter leur effet sur des mailles, des cubes en fait, qui vont faire 50 par 50 km de côté. Et donc là, en fait, on introduit une incertitude. Et c'est donc particulièrement important de tester si ces modèles de climat représentent bien les grandes variations passées, les états froids, glaciaires, les périodes chaudes à l'échelle géologique, quand d'ailleurs il y avait plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et également les petites variations de la période historique.
Et c'est ce qui permet évidemment de faire des modèles prévisionnels et donc de prendre des décisions au niveau politique, puisque c'est ça aussi qui nous intéresse aujourd'hui, Valérie Masson-Delmotte, c'est-à-dire une fois que le constat a été fait, qu'il y a un consensus sur l'origine anthropique du réchauffement climatique, le fait que voilà, c'est la révolution industrielle à partir du 19e siècle qui a projeté dans l'atmosphère comment dire une somme de gaz carbonique telle que voilà, on a modifié le climat. Certains parlent d'anthropocène. Voilà, on est rentré dans une nouvelle ère géologique du fait de l'activité humaine. Et donc, il faut bien prendre des décisions. Et c'est ce que permet, finalement, ces modèles sur lesquels vous travaillez.
Alors, ces modèles de climat, donc, ils nous permettent aussi d'explorer des futurs, on va dire, physiquement plausibles. Et la première question, c'est qu'est-ce que nous, on va faire ? Donc ça va partir de scénarios socio-économiques. Comment nous, on va, par exemple, utiliser les terres ? Comment est-ce qu'on va rejeter des particules qui ont un effet parasol ? Comment on va rejeter des gaz à effet de serre ? Et en fonction de ça, quelles sont les évolutions physiquement plausibles, donc à partir de cette modélisation du climat ? Et donc, nous, on ne parle pas vraiment de prévision, on parle plutôt de projection, au sens où c'est en fonction de ce qu'on va faire, en fonction de certains scénarios. Et à partir de ces outils, on montre à quel point on est sur une situation qui est irréversible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Hein. On a accumulé de la chaleur, en particulier dans les océans. Quoi qu'on fasse, ça va rester chaud. Il y a des changements qui vont être inéluctables dans les prochaines décennies. Et donc, il va falloir s'y adapter. Et cette information climatique, elle est importante pour construire une adaptation. C'est-à-dire anticiper, pas être en gestion de crise, mais identifier où sont les risques pour pouvoir agir sur les facteurs de risque. L'exposition, la vulnérabilité par rapport à un climat qui va changer, tirer parti des opportunités, il y en a quelques-unes. Et puis enfin, c'est aussi ce qui permet d'identifier quelles seraient les trajectoires qui permettraient de maîtriser l'évolution même du climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Et donc faire le lien entre ce que les politiques ont défini comme objectif, puisqu'en fait les politiques, dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, ont fixé comme objectif de contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés, par rapport à la fin du 19e siècle. Et la question qui est posée, c'est comment y parvenir ?
C'est encore possible, parce qu'on entend beaucoup, Valérie Masson-Delmotte, que voilà, cet objectif-là, il est déjà nul et non avenu, on n'y arrivera pas.
Alors nous, ce qu'on montre, c'est sur la base de travaux de modélisation, si on arrêtait tout, toute perturbation, le climat se réchaufferait un peu, avec très vite, on perdrait les particules qui ont un effet refroidissant, et puis plus lentement, les gaz à effet de serre qui ont un effet réchauffant. Et ça se stabiliserait à un niveau en dessous d'un degré et demi. Donc il reste une
petite
marge de manœuvre. Si on voulait limiter le réchauffement autour de 1,5 degré, ça voudrait dire en fait diviser par deux les émissions mondiales de dioxyde de carbone à horizon 2030 et atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 dans le monde entier.
C'est un objectif que s'est fixé la France, ce que vous venez de dire.
Dans le rapport 1,5 degré, on montre que d'un point de vue théorique, ce n'est pas impossible. La question, c'est notre capacité à transformer tous nos grands secteurs d'activité suffisamment vite, c'est-à-dire de déployer les solutions qui existent, de construire de nouvelles solutions, de les mettre en œuvre. Et ça passe aussi par une dimension sociale qui est extrêmement importante, puisque ça implique aussi des changements de comportement. Et finalement, c'est la grande question. Donc, contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés, ça voudrait dire baisser d'un quart les émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030, atteindre la neutralité CO2 à horizon 2070. Donc c'est la même trajectoire, mais un peu plus lente. Vous voyez ce que je veux dire ? Mm-hmm. Et enfin, dernier volet, dernier
c'est
élément.
C'est important, un demi-degré
Oui, mais dernier élément d'analyse, les promesses des pays, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Leurs engagements. Ceux qui ont été exprimés en 2015 dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Ce sont des promesses à horizon 2025-2030. Et si toutes ces promesses se réalisent, les émissions mondiales continueront à augmenter, en fait, entre maintenant et 2030. Ce qui veut dire que même avec des efforts drastiques après, on ne pourrait pas contenir le réchauffement à 1,5 degré, ce serait exclu. Et ce serait plutôt une trajectoire qui conduirait, s'il n'y a pas plus d'ambition, à un réchauffement de l'ordre de 3 degrés. Donc ça, c'est la situation telle qu'on l'évalue aujourd'hui. Et en fait, à quel point chaque fraction de réchauffement, chaque demi-degré de réchauffement compte, c'est vraiment un résultat majeur du rapport sur 1,5 degré. C'est même un résultat qui a surpris ma propre communauté, les spécialistes eux-mêmes de la modélisation du climat. En comparant l'ensemble des simulations qui existent dans le monde, ils ont montré à quel point chaque demi-degré fait une différence sur les climats régionaux, fait une différence sur les événements extrêmes comme les vagues de chaleur, sur l'évolution de la glace de mer en Arctique, sur l'évolution des pluies torrentielles dans beaucoup de régions, comme dans le sud de la France, ou pour tout le tour de la Méditerranée, l'intensification des épisodes de sécheresse. On les observe déjà, ils vont s'intensifier, et plus le réchauffement planétaire sera élevé, plus ces changements seront importants. On identifie un certain nombre de zones qui sont particulièrement sensibles, on les appelle les points chauds du réchauffement climatique. Et parmi ces points chauds, il y a l'Asie du Sud-Est, il y a l'Afrique subsaharienne, le Sahel, avec des enjeux de rendement agricole, de sécurité alimentaire et de chaleur oppressive. Il y a également des enjeux majeurs du côté de l'Afrique australe, par exemple. Et en ce sens, finalement, ce qu'on montre, nous, profondément, c'est que l'ampleur du réchauffement, c'est un enjeu en termes de développement humain. C'est un enjeu en termes de développement humain parce que, dans certaines régions, chaque fraction de degré supplémentaire, ça risque d'exposer des dizaines, des centaines de millions de personnes à des risques climatiques croisés pour des gens qui sont aujourd'hui fragiles et susceptibles de basculer dans la pauvreté.
On a le constat, donc Valérie Masson-Delmotte, étayé par les travaux scientifiques. On a un certain nombre de propositions, celles du GIEC notamment, des propositions en tout cas sur les trajectoires qu'il faudrait adopter si on voulait pouvoir d'un côté maîtriser un petit peu mieux ce réchauffement climatique, non pas l'arrêter, ça on l'a bien compris que c'était pas possible, en tout cas pas dans les décennies qui viennent. S'adapter, donc c'est un terme important, peut-être qu'on y reviendra. Mais pour tout ça, vous l'avez dit, il faut une mobilisation et une mobilisation qui est aussi politique. Vous étiez cette semaine à l'Assemblée nationale avec Greta Thunberg, donc cette activiste suédoise. On en a beaucoup parlé dans les médias de ce discours. On a surtout beaucoup parlé des quelques députés qui ont décidé de boycotter, notamment parce que selon eux, d'abord on avait le sentiment qu'ils n'avaient pas trop envie de se faire faire la leçon par une jeune fille de 16 ans, d'un côté, et de l'autre côté, ils disaient, voilà, si on suit Greta Thunberg, c'est une remise en cause de notre modèle de libre-échange, évidemment, notre modèle économique, et donc on sentait bien que les résistances politiques, les résistances, elles sont encore tout à fait présentes, Valérie Masson-Delmotte.
Alors moi, j'ai entendu beaucoup de remarques qui disaient « Mais pourquoi faire venir cette jeune fille de 16 ans ? Quelle est sa légitimité ? Et pourquoi ne pas donner la parole aux scientifiques ?» Moi, je suis à la disposition, de même que tous mes collègues, de tout élu, de tout représentant du peuple qui souhaite visiter les centres de recherche, les laboratoires, là où on produit ses connaissances. Parce que la plupart de mes collègues ont le sentiment aussi de devoir, pas uniquement produire des connaissances, parce que si elles restent dans notre petit monde, elles ne servent à rien, mais aussi les partager. Et d'ailleurs, moi, je suis très reconnaissante à ce mouvement de jeunesse pour le climat, parce que finalement, c'était ma première occasion pour présenter les points clés de ce rapport sur 1,5 degré aux députés. J'avais été invitée à le faire à la commission développement durable du Sénat mais pas devant les députés.
Donc un rapport qui date de l'automne dernier.
Oui.
Vous n'aviez pas pu encore le présenter aux députés.
Je n'avais pas été invité dans un cadre formel. Et là, ce n'était pas un cadre formel. C'était un moment d'échange dans une salle du sous-sol de l'Assemblée. Voilà. Et je précise d'ailleurs que le GIEC ne fait pas de recherche, ne fait pas de recommandations. Il ne fait que passer en revue l'état des connaissances sur la base d'un examen critique de l'ensemble des travaux scientifiques publiés.
Pour établir justement une forme de consensus sur lequel pourraient s'appuyer les décideurs politiques pour avancer dans les politiques publiques.
Le terme consensus me gêne. Moi, je dirais plutôt on évalue ce qui est robuste, c'est-à-dire ce qui résiste à l'examen critique au cours du temps. C'est comme ça que marche la science. Il permet aussi de faire le point sur ce que peuvent être des controverses scientifiques et en mettre les éléments de manière claire sur la table. Et puis, chacun de nos chapitres termine par une évaluation des limites des connaissances. C'est quelque chose qui est très stimulant à lire quand on est, par exemple, un jeune chercheur, parce que ça dessine autant, finalement, de voies de recherche pour l'avenir.
Valérie Masson-Delmotte, il y avait quand même un contraste entre le message qu'on a entendu de Greta Thunberg, écouter les scientifiques, le message qu'elle a voulu faire passer aux députés français, et la nature émotionnelle de son intervention qui a été beaucoup reprochée. C'est-à-dire, voilà, maintenant on est dans l'émotion et on n'aborde plus ces questions de façon rationnelle. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à ça ?
Moi, je pense que chaque personne est libre d'exprimer sa position comme elle le souhaite. Je n'ai pas à apporter de jugement de valeur. Il faut constater quand même quelque chose, c'est que notre constat scientifique sur ce réchauffement, sa réalité, le rôle de l'influence humaine, il a été établi depuis longtemps. Le premier rapport important sur le sujet, il date de 1979, celui de l'Académie des sciences américaines de l'époque. On a 30 ans de rapport du GIEC. Et vous voyez bien que les scientifiques peinent à être entendus par la société. Il faut une jeune fille de 16 ans, finalement, parfois, pour attirer l'attention sur des éléments factuels importants qui sont dans le contenu de nos rapports. Pourquoi ? Peut-être parce que, justement, l'incarnation de ce qu'est l'évolution future du climat pour les jeunes générations d'aujourd'hui, c'est quelque chose dont on a besoin. C'est une autre voie, c'est un autre point de vue que celui des scientifiques qui, souvent, comme moi, sont mal à l'aise pour exprimer les implications pour l'ensemble de la société. Donc peut-être que ce mouvement de la jeunesse, qui n'est pas que celui de Greta Thunberg, puisqu'il y a beaucoup de jeunes Français qui sont impliqués.
Oui, elle était accompagnée de trois jeunes.
Il y avait trois jeunes Français qui ont aussi exprimé des points de vue d'ailleurs différents, qui ont répondu aux questions des députés qui étaient présents. Beaucoup d'entre eux ont fait un effort pour s'approprier ce constat scientifique. Moi, j'ai vraiment été frappée de ça. Donc, il y a des étudiants qui m'ont sollicité, en particulier par Skype, qui avaient lu certains chapitres du rapport, qui essaient de comprendre les éléments scientifiques dedans. C'est ardu. J'ai même rencontré deux jeunes Français de 14 et 17 ans à Jussieu. Pareil, qui avaient des questions, qui avaient listé un ensemble de questions très précises pour mieux comprendre ces éléments scientifiques.
Donc à la faculté de Jussieu à Paris.
Moi, j'étais en une réunion de mon institut, l'Institut Pierre-Simon Laplace, et c'était deux jeunes qui, tirant parti du fait que je sois à Paris et eux aussi, m'ont en gros cuisiné pendant une heure et demie pour que j'arrive à répondre avec des mots simples aux questions qu'ils se posaient par rapport aux termes un peu techniques de notre rapport. Et ce travail-là, il est formidable. C'est-à-dire qu'on est une jeune génération qui cherche à s'approprier ces éléments-là, qui en fait finalement quelque chose qui est presque un marqueur culturel pour leur génération. C'est vraiment nouveau. Et voilà, la première question, j'ai posé deux questions aux députés qui étaient présents. Ma première question, c'était qui a lu ce rapport, en tout cas le résumé pour les décideurs de 25 pages. Et seulement un petit nombre d'entre eux l'avaient lu. Et j'ai aussi posé la question plus tard de savoir qui parmi eux avait eu des cours lors de leur formation initiale ou lors de leur formation continue plus tard sur finalement les éléments scientifiques du changement climatique. Et très, très peu d'entre eux avaient cette formation-là. On voit bien la difficulté pour la plupart des gens, et nos députés nous reflètent l'ensemble de la société, pour s'approprier finalement l'ensemble de ces éléments de ce qu'est le changement climatique et des défis que cela pose. Il reflète cette difficulté-là. Et puis la situation, je reviens à la situation météorologique actuelle, les vagues de chaleur répétées partout, une sécheresse particulièrement prononcée, mais qui fait suite à une répétition de phénomènes de sécheresse ces dernières années. Elle montre qu'on n'est pas prêt à la variabilité du climat d'aujourd'hui. On est encore en gestion de crise, on n'est pas en prévention, on n'est pas en gestion de risque. Et donc ça montre à quel point on a besoin d'une appropriation de ces éléments-là, de sorte à prendre des décisions qui soient structurantes, pas au fil de l'eau, mais structurantes pour faire face à la fois à la résilience et à la fois à la décarbonisation finalement de nos activités.
Il y a un autre élément, Valérie Masson-Delmotte, dans cette mobilisation des jeunesses d'Europe, du monde, sur la question climatique, c'est que tout ce que vous nous avez décrit depuis le début de cette émission peut avoir un côté un petit peu décourageant. Il y a une dimension systémique, voilà, on a l'impression à titre individuel et même collectif, souvent on dit très bien la France pourrait se mobiliser encore plus que les autres ou d'autres pays européens, mais quand on regarde la puissance qui monte en Inde, en Chine, des pays comme ça qui ont le droit aussi à leur développement économique, à quoi ça sert? C'est une goutte d'eau dans l'océan. Bref, on pourrait être un petit peu découragé et donc peut-être que cette mobilisation de la jeunesse, elle permet de dépasser cette forme de découragement.
Tout à l'heure, vous faisiez référence aux émotions et je pense que c'est un point important à aborder. Et les chercheurs en sciences sociales, moi j'en fais pas partie, mais je lis avec intérêt leurs travaux, ils montrent que finalement sur la question du changement climatique et de ses enjeux, quand on se l'approprie, on traverse un cercle d'émotions qui est assez semblable à celui d'un deuil, avec de la peur, de la colère, le sentiment d'impuissance. Sur la question climat, il y a aussi souvent une réaction... désemparé par rapport à l'incohérence entre l'affichage d'une ambition et puis des actions qui ne sont pas à la hauteur de l'ambition. C'est aussi quelque chose qui ressort très fortement. Et chacune de ces étapes, la peur, le sentiment d'impuissance, la colère, c'est le moteur du déni. C'est ce qui nourrit aussi le fait parfois d'être fataliste, d'être indifférent et de ne pas déployer les leviers d'action qui existent.
Oui, parce qu'on voit beaucoup, en ce moment, on parle beaucoup de la collapsologie, des livres qui sortent sur l'effondrement. On entend Yves Cochet, par exemple, dire, voilà, moi je suis effondriste, je sais que pour moi, l'humanité, il y a une chance sur deux qu'en 2050, il n'y ait même plus d'humanité. Enfin, je sais qu'il le dit de façon peut-être un peu provocante, mais malgré tout, on voit ce discours se développer. Et donc, il y a tout un débat, c'est de savoir, est-ce que on paralyse les gens de peur avec ce type de débat, ou est-ce que, de discours plutôt, ou est-ce qu'on arrive à mobiliser? Quel est votre sentiment là-dessus?
Je n'ai pas d'avis sur la question, mais par contre, il y a un certain nombre d'aspects dans ce discours qui me posent problème. D'abord, en fait, il s'inscrit dans les limites des connaissances scientifiques. Qu'est-ce qu'on sait de la capacité des sociétés à faire face à des crises croissantes? C'est vraiment difficile d'extrapoler. C'est aussi un discours que je trouve très difficile devant des plus jeunes, parce que finalement, c'est un discours qui rend très difficile de se projeter dans l'avenir. C'est aussi un discours qui s'inscrit dans... finalement une défiance par rapport à tout ce qui est organisation politique. C'est un discours parfois qui pousse à un repli sur soi, alors qu'en réalité on a besoin de changements structurels, on a besoin de réorienter les financements vers l'adaptation, vers les solutions sobres en carbone, vers l'efficacité énergétique. On a besoin de changer nos infrastructures, on a besoin d'une économie circulaire, d'efficacité énergétique, de transformer nos villes, on a besoin de transformer notre utilisation des terres, pour stocker du carbone, protéger la biodiversité, avoir une agriculture résiliente qui réduit ses émissions de gaz à effet de serre. On a besoin de transformer notre manière de produire l'énergie pour aller vers les solutions bas carbone au maximum, pour l'électricité, pour les transports, etc. Et donc tout ça demande des changements structurants. Ça demande en fait d'avoir des gens compétents, formés, capables de porter ces transformations-là. Et donc le discours pour moi du repli sur soi, il est difficile à concilier avec l'ampleur de l'action nécessaire pour finalement maîtriser les risques climatiques.
Mais est-ce que ça sert à quelque chose, pour le dire très clairement, Valérie Masson-Delmotte, selon vous, est-ce que ça sert à quelque chose l'action individuelle face à ce phénomène massif qu'est le réchauffement climatique?
Il y a besoin des deux. On le montre très clairement dans l'analyse des trajectoires socio-économiques compatibles avec une stabilisation du réchauffement dans le rapport sur 1,5°. On montre en fait que pour contenir le niveau du réchauffement au plus bas possible, on a besoin à la fois d'agir sur l'offre, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre associées à l'énergie, associées à l'agriculture, les offres de mobilité alternative à la voiture et tout le reste.
On a vu que c'était un sujet...
Agir sur l'offre, mais on a aussi besoin d'agir sur la demande. Parce qu'en fait, si dans le monde, la population va continuer à augmenter, et si la demande en énergie continue à augmenter, la demande en matériaux non renouvelables continue à augmenter, la demande alimentaire continue à exercer une pression très forte sur l'utilisation des terres, ou conduit à émettre des gaz à effet de serre à la déforestation, c'est pas possible de contenir le réchauffement à un niveau bas, parce qu'en fait, ça veut dire des systèmes de production qui grossissent et donc très difficiles à transformer rapidement. Et donc, ce qu'on montre dans notre évaluation, c'est que pour contenir le réchauffement à un niveau bas, il y a besoin de transformer les systèmes de manière systématique, avec une approche systémique, mais il y a aussi besoin d'une forme de sobriété en énergie, en matériaux non renouvelables, et d'avoir une alimentation saine, donc celle qui permet de vivre longtemps et en bonne santé, et qui réduit aussi les pressions sur l'environnement.
Oui, ça se joue évidemment au niveau individuel, Valérie Masson-Delmotte. Vous l'avez dit tout à l'heure, le GIEC n'est pas là pour donner des prescriptions au gouvernement, mais malgré tout, il se dessine un certain nombre de solutions possibles, en tout cas d'adaptations nécessaires et faisables dans les années qui viennent. Si on prend par exemple, puisque les canicules ont beaucoup frappé les villes, évidemment, ces derniers jours, et que plus de la moitié de la population mondiale vit maintenant dans des villes. Si on prend cette question de l'adaptation des villes, est-ce que sur ce sujet-là, il y a un certain nombre de choses qui, selon vous, doivent être faites? Il y a à la rentrée une loi énergie-climat, justement, qui va être discutée sur ces questions des passoires thermiques, par exemple.
En fait, la question des villes, elle est vraiment importante. Elle est importante pour transformer les villes existantes et aussi parce qu'il y a un mouvement d'urbanisation sans précédent où 2 milliards de personnes en plus vont vivre en ville. Et donc, la manière dont ces villes vont être construites, leurs infrastructures vont être décisives pour savoir si on est capable ou pas de maîtriser les rejets de gaz à effet de serre tout en permettant à tous de vivre dignement. Et donc, la question pour les villes, elle est double. Elle est comment on fait en sorte d'avoir des villes résilientes, c'est-à-dire des villes où on vit correctement, même si on a moins d'abondance de précipitations dans certaines régions, même si on a des vagues de chaleur plus intenses et plus fréquentes dans la plupart des régions, ou dans certains cas, si on a des pluies plus intenses, et donc des villes éponges, des villes qui ont des îlots de fraîcheur, en augmentant par exemple les trames vertes, de sorte à bénéficier de l'effet rafraîchissant de l'évaporation, de la transpiration des plantes, plutôt que l'effet amplificateur du bitume. Donc la question des villes, elle est assez centrale et on voit beaucoup de choses qui bougent partout dans le monde. C'est ça qui est intéressant. Peut-être parce que justement, au niveau des décideurs dans les villes, ils sont en prise directe avec les impacts du changement climatique et avec les attentes des habitants des villes.
On n'insiste pas assez sur ce qui se fait déjà aujourd'hui, selon vous, Valérie Masson-Delmotte ?
On ne le donne pas assez à voir. Donc en fait, on parle de scénarios du futur, on parle de risques, mais on ne montre pas assez où sont les solutions et finalement, qu'est-ce que c'est une transformation réussie ? Et peut-être que c'est ça qui est assez anxiogène. C'est-à-dire, on comprend bien qu'il va falloir changer des choses, mais on n'imagine pas comment on va vivre bien tout en ayant réduit fortement ses émissions de gaz à effet de serre et tout en ayant réduit notre exposition aux aléas climatiques.
Et parce que cette façon,
pour se projeter dans l'avenir, pour se l'approprier.
Cette façon, cette capacité d'anticiper, Valérie Masson-Delmotte, donc d'anticiper l'adaptation, c'est le seul moyen de construire une transition quoi, éthique et juste, et pas seulement de réagir. Parce qu'en réaction, évidemment, il y a un certain nombre de choses qui pourraient passer à la trappe en termes d'éthique, justement, et de justice sociale, notamment.
En fait, c'est un enjeu démocratique. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est avoir des processus délibératifs. Par exemple, si on pose la question de l'adaptation. Qu'est-ce qu'on veut protéger et pourquoi ? Est-ce qu'on veut protéger des infrastructures névralgiques, sensibles, je sais pas, par exemple par rapport à la montée du niveau des mers ? Ou est-ce qu'on veut protéger les populations les plus vulnérables ? Comment est-ce qu'on protège les écosystèmes les plus vulnérables ? Et de la même manière, si on veut baisser les émissions de gaz à effet de serre, on a des solutions, par exemple, pour utiliser les cultures pour produire de l'énergie à la place des énergies fossiles. Mais si on déploie ça à grande échelle, on sait très bien ce qui va se passer, ça va détruire les forêts primaires ou les tourbières tropicales, puis conduire à de l'accaparement de terres. De la même manière, si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, les économistes s'accordent pour dire que la fiscalité est un aspect vraiment important, mais on l'a vu récemment en France. La fiscalité, quand on a des mobilités contraintes, des ressources limitées, des dépenses importantes de chauffage sans la capacité, par exemple, à mieux isoler son logement, ça pèse de manière disproportionnelle sur certains. Et donc, c'est vraiment un enjeu de penser ces transitions de sorte à ce qu'elles soient justes, c'est-à-dire que chacun contribue à sa juste part, à la fois dans la délibération, mais aussi dans, finalement, l'action qui est demandée.
C'est important, selon vous, de donner un prix, par exemple, au carbone, ce qui implique de rester dans le système économique dans lequel on est aujourd'hui, Valérie Masson-Delmotte, mais voilà, avoir un prix du carbone, ça permettrait d'en baisser l'émission.
Moi, je ne suis pas économiste, mais en tout cas, tous les travaux des économistes, toutes les trajectoires qui sont évaluées, permettant de baisser les émissions de gaz à effet de serre inclut de différentes manières des contraintes par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Ça peut être des contraintes réglementaires, mais c'est aussi des contraintes en termes de fiscalité. Alors ça peut être pour certaines grandes entreprises, dans des secteurs particulièrement émetteurs. Ça peut être aussi pour les particuliers, mais dans ce cas-là, avec des approches de compensation, de sorte à avoir, de ne pas avoir un surcoût pour ceux qui sont les plus vulnérables.
J'ai vu, Valérie Masson-Delmotte, qu'il y allait avoir un nouveau rapport du GIEC, ça, le 8 août, qui allait sortir sur la dégradation des terres agricoles. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner en avant-première quelques enseignements de ce rapport. Vous avez commencé à en parler un petit peu, des questions de rendement. Je crois qu'il insiste aussi sur la question des qualités nutritives, de ce qui est cultivé quand il y a, par exemple, des forts épisodes de chaleur comme ceux qu'on vient de traverser.
En fait, c'est un rapport qui touche à des sujets variés. Il touche à la question de la dégradation des terres et de la désertification dans un climat qui change. Il touche également à la question de la sécurité alimentaire et nutritive. Il touche également à ce qu'on peut appeler une gestion soutenable des terres, parce que finalement, la pression sur les terres augmente. On a besoin des terres pour préserver de la biodiversité, qui elle-même est menacée dans un climat qui se réchauffe fortement. On a besoin des terres pour nourrir une population croissante. On a besoin des terres pour stocker du carbone aussi, si on veut limiter l'ampleur du réchauffement climatique. Et donc la question qui se pose, c'est quelles sont les options d'action pour une gestion durable des terres. Et donc ce rapport, il fait le point à la fois sur les risques, des risques qui sont vraiment importants, sur des aspects vitaux, mais également il fait le point sur l'ensemble des solutions qui existent, et encore une fois, des solutions en termes de gouvernance, des solutions en termes technologiques, avec à la fois des savoirs traditionnels et puis des innovations, et les solutions qu'on a chacun chez soi en termes de choix de consommation.
Eh bien, merci beaucoup Valérie Masson-Delmotte. C'est donc le 8 août la remise de ce nouveau rapport du GIEC, et soyons sûrs qu'on aura de nouveau l'occasion de vous inviter et d'en parler. Merci beaucoup d'être passé au magazine du week-end.
Merci.
Happy Face, extrait du prochain album du trompettiste de jazz Ibrahim Malouf. L'album s'appelle Sens et sortira le 27 septembre prochain.
Le magazine du week-end, Raphaël Bourgois.
La culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui, comme elle le fut. Des civilisations qui ont précédé celle-là.
En face de la mort, il n'y a que ce qui résiste à la mort. En face des puissances de la nuit, il n'y a que l'immortalité.
Quel ministre de la culture serez-vous ?
Je ne peux pas vous répondre encore. On saura peu à peu.
Qu'est-ce que ça représente personnellement pour vous ?
Une tâche exaltante et un honneur.
L'engagement dans la culture, dans la vie artistique, c'est un peu l'histoire de toute ma vie.
Pour des raisons assez mystérieuses, tous les gens qui sont ici ont compris que tantôt avec la douleur et tantôt avec le rire, ce qui avait survécu pendant les siècles était l'arme la meilleure que le monde puisse trouver contre ce qui était en train de le menacer.
Libre à chacun de témoigner par son instrument de musique de sa joie à voir l'été revenir. Mais naturellement, il n'y a pas d'obligation. Et chacun est libre. Et je crois que cette immense armée des musiciens français montrera sa force ce soir-là.
L'exception culturelle, c'est la position défendue d'une seule voix par la France. Seule l'exception culturelle garantit la survie d'un système d'aide et de protection mis en place dans les années 80.
On demande à tous de faire des efforts en matière de rétablissement de nos comptes publics. Mais ces efforts ont des limites, et ces limites, c'est l'ambition que nous avons pour l'audiovisuel public. Bien sûr qu'il faut des moyens quand on a de l'ambition. C'est quand ça va bien qu'il faut se transformer. C'est quand ça va bien qu'il faut prévoir l'avenir.
Florilège de ministre de la Culture, car il y a 60 ans, le 24 juillet 1959, était créé le ministère des Affaires culturelles sous l'impulsion d'André Malraux. Sa mission, je cite le romancier ministre, « rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France au plus grand nombre possible de Français, assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et favoriser la création des œuvres d'art et de l'esprit qui l'enrichissent ». La spécificité culturelle française était née, une approche à la fois centralisée et déconcentrée de la culture, la mise en place d'un maillage territorial d'institutions qui favorise la création et la diffusion, le rôle de l'État comme stratège financier et arbitre de la politique culturelle. Après Malraux, ce qui est entre-temps devenu le ministère de la Culture a été occupé par des personnalités comme Michel Guisse ou Giscard d'Estaing et bien entendu Jack Lang sous Mitterrand qui ont perpétué, renforcé cette vision. Une vision qui serait bien mal en point aujourd'hui. C'est le constat en tout cas d'un ensemble de syndicats du monde de la culture et du spectacle qui rappellent dans une tribune publiée par Mediapart cette semaine le besoin d'un ministère fort et engagé dans des missions ambitieuses. Leur crainte, voir l'État se désengager progressivement au profit des collectivités locales et du mécénat. Mais ils critiquent aussi un changement de logique à l'œuvre depuis de nombreuses années qui insiste sur la rentabilité des industries culturelles. Alors, à 60 ans, le ministère de la Culture bat-il en retraite? C'est notre sujet de la seconde partie du magazine du week-end. Trois invités pour en discuter. Un ici en studio à Paris, Bernard Latarger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes producteur culturel, c'est comme ça que vous vous définissez, président de l'Association des centres culturels de rencontres et président de l'ONDA. L'ONDA, c'est l'Office national de diffusion artistique et vous avez dirigé, coordonné, à la demande de Françoise Nyssen, lorsqu'elle était ministre de la Culture, le plan Culture près de chez vous, qui est destiné à densifier la présence de l'offre culturelle dans ce qu'on appelle les zones blanches, en tout cas les zones où elle est moins présente. On aura certainement l'occasion d'en parler. On est au téléphone avec Jean-Paul Angot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la scène nationale MC2 à Grenoble et vice-président du Syndéac. Le Syndéac, c'est le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles qui est co-signataire de la tribune dont je parlais à l'instant dans Mediapart. Et la MC2, c'est vraiment l'une des dernières maisons de la culture qui a été créée par André Malraux. Donc voilà, vous êtes évidemment au cœur de cette histoire, de cette réflexion. Et enfin, au téléphone également, mais depuis Montpellier cette fois-ci, Nicolas Bourriaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes curateur, directeur général du MOCO, le musée d'art contemporain de Montpellier qui a ouvert récemment un nouvel espace consacré aux collectionneurs et aux collections à la fois publiques et privées. Vous êtes aussi l'ancien directeur des Beaux-Arts de Paris. Vous avez participé à la création du Palais de Tokyo. Vous serez donc ici pour nous parler aussi des enjeux qui ne touchent pas seulement au spectacle vivant, mais aussi, bien entendu, à la question de la diffusion de l'art contemporain notamment. Alors, à l'occasion du 60e anniversaire du ministère de la Culture, le ministre Franck Riester a affirmé des ambitions renouvelées, quatre priorités, l'émancipation des citoyens par la culture, remettre les artistes au cœur de la société, la culture comme levier de cohésion et l'attractivité des territoires, et enfin réaffirmer la souveraineté culturelle de la France. Bernard Latarger, le ministère de la Culture a établi ces dernières années, au cours de ces six décennies, une structure, un maillage territorial pour la création et la diffusion des œuvres d'art. Quelles doivent être aujourd'hui, selon vous, ces priorités? Est-ce qu'on peut continuer comme avant, tout simplement?
Alors, vous avez raison de souligner que pendant ces 60 ans, la politique culturelle publique a couvert la France d'un maillage, d'une résille d'équipements dans toutes les disciplines, de manifestations, d'événements uniques au monde par sa diversité et par sa densité. Ce modèle d'irrigation progressive, descendante, à partir des grandes institutions nationales vers les territoires plus éloignés, ce modèle aujourd'hui atteint son accomplissement. on n'ira pas beaucoup plus loin dans cette logique. C'est un succès et il faut absolument préserver cet acquis, préserver ce capital. Mais aujourd'hui, pour reprendre la phrase que me disait une directrice d'un des grands théâtres de province récemment, nos salles sont pleines, mais ça ne suffit plus. Aujourd'hui, ce modèle est confronté à de nouveaux enjeux. J'en cite deux prioritairement. Le premier, c'est il subsiste de grandes inéquités territoriales d'accès à la culture. Et le deuxième, c'est que cette idée que ce modèle génère spontanément de la cohésion sociale, il est remis en cause. Certes, l'institution culturelle publique continue de gagner du public, et c'est très bien. Mais la fracture, la profondeur, la gravité de la fracture entre ce public et le reste de la population, elle s'aggrave. Et donc, aujourd'hui, ce nouvel enjeu, cette nouvelle confrontation des acteurs de la culture à des exigences nouvelles oblige non pas à remettre en cause le modèle ancien, mais à le compléter. Et par un travail qui consiste à partir davantage des territoires, du local, des acteurs là où ils sont, avec les moyens qui sont les leurs, les 40 000 associations culturelles employeuses aujourd'hui, les petites écoles de musique, les bibliothèques, bref, tout ce tissu, il n'y a pas d'onde blanche, hein, c'est tout ce tissu de la réalité locale de l'activité culturelle qu'il faut s'efforcer de densifier, d'enrichir à travers de nouveaux plans de développement culturel de territoire complémentaires des grandes institutions publiques traditionnelles.
Oui, on aura l'occasion évidemment de détailler tout ça, Bernard Latarger, mais Jean-Paul Angot, on a là déjà l'objet, je pense, principal de ce qui va être notre discussion, c'est-à-dire ce rapport entre l'échelon central et l'échelon local, cette idée de la décentralisation versus l'idée de la déconcentration. Bref, c'est un sujet qui montre qu'aujourd'hui, on se retrouve véritablement à un moment charnière, à la fois pour le ministère de la Culture, mais aussi pour les politiques culturelles.
Oui, tout à fait, mais en écoutant Bernard, que je salue, puisque je suis aussi membre du conseil d'administration de l'ONDA, les mots sont graves, fracture, etc., distance. Au moment où on se félicite de l'efficacité d'un ministère potentiellement. Donc je pense que la vraie inéquité, c'est le déséquilibre qu'avait d'ailleurs souligné la précédente ministre, Mme Nissen, entre Paris et l'Île-de-France et le reste de la France en termes d'intervention du ministère de la Culture. Parce que tout cette résille, tout cet enchevêtrement de dispositifs ne tient que parce qu'à un moment, le ministère l'a initié et que les collectivités l'ont relayé ou amplifié dans certains endroits. Et c'est cette dialectique-là qui est à l'œuvre. Je suis moins convaincu d'un changement de paradigme qui ferait de mettre d'un côté les institutions qui ne seraient plus, qui seraient toujours descendantes. En fait, elles sont souvent en grande proximité, elles sont la plupart du temps extrêmement liées au local. Et je pense que, en fait, c'est tout l'ensemble qui doit être revigoré. Et l'inquiétude qui a été émise dans cette lettre adressée au ministre porte justement sur le devenir de l'équilibre entre l'État et les régions, car c'est ce couple qui doit absolument fonctionner. Et le ministère doit rester, dans une forme non pas de condescendance vers la province, pour envoyer un vilain mot, mais comme quelqu'un qui initie la pratique, et puis j'ajouterai quand même, là je suis actuellement dans le Lot, hein, au festival de Figeac, dans un département relativement éloigné, qui est considéré comme une zone blanche d'un point de vue des réseaux Internet. Et là, on peut voir Cyrano de Bergerac, on peut voir une mise en scène d'un texte de Viri Paillef. Voilà, donc effectivement, il n'y a pas véritablement de zone blanche d'accès à la culture. En tout cas, je parle du spectacle vivant. Mais ce qui est sûr, c'est que l'inquiétude porte sur le devenir de tout ça et la potentialité qui ne serait pas affaiblie par les jeux de déconcentration et d'éventuels transferts de compétences.
Alors, je termine ce premier tour de table virtuel, puisque vous êtes aussi au téléphone, Nicolas Bourriaud, mais depuis Montpellier, ou enfin, en tout cas, vous êtes le directeur du MOCO à Montpellier, et je sais que vous, justement, dans la création, dans la façon de penser ce nouveau musée, il y a aussi un recours, comment dire, il y a une motivation et un recours aux collectivités locales, avec pas forcément l'envie ou le désir de faire appel à l'État.
Oui, en fait, je pense d'ailleurs qu'il faudrait parler d'un changement de paradigme pour le ministre de la Culture. En fait, j'écoutais avec intérêt mes deux collègues. D'une part, ce qui est intéressant, c'est qu'on a employé le mot province. Et je pense que ça, c'est la première chose, en fait, sur le premier élément du paradigme qu'il faut absolument changer. Je pense qu'on peut plus réfléchir aujourd'hui en termes de Paris, qui concentre d'ailleurs plus de 80% des moyens dévolus à la culture en France, et compléter le dispositif ou revigorer un système. Je pense qu'il faut complètement changer de paradigme. Je crois que cette division complètement antédiluvienne entre Paris et la province, je vous rappelle que le terme de province d'ailleurs désigne des territoires conquis par les légions romaines hein, au départ, ça dit beaucoup. Et je crois que c'est ça le principal écueil. Et c'est là où il faut changer de paradigme, tout d'abord. Le ministère de la Culture, il a été effectivement créé en 59 avec une ambition de décentralisation avec les maisons de la culture, mais surtout avec une ambition de, vous l'avez rappelé tout à l'heure, de rendre accessibles les œuvres de l'esprit au plus grand nombre. Je crois que dans un environnement de superproduction artistique, il ne faut pas oublier ça, d'accessibilité totale, mais dans un plus grand désordre des œuvres de l'esprit, par Internet. On ne peut plus raisonner aujourd'hui en termes d'accessibilité. Et c'est là aussi qu'il faut changer de paradigme. On ne peut plus raisonner selon les termes qui étaient ceux du ministère de la Culture de Malraux en 59. Or, il se trouve qu'effectivement, depuis lors, et parfois avec grande réussite, hein, je pense qu'effectivement, que ce soit Malraux ou Jack Lang, en fait, ces deux ministres qui ont eu à la fois du temps, ils ont eu chacun à peu près 10 ans, et qui se sont qui ont axé leur politique sur des vrais gestes de décentralisation, les maisons de la culture pour l'un, ou les FRAC et beaucoup d'autres, les scènes nationales pour Jack Lang. C'est, je pense, ça qu'il faut complètement repenser aujourd'hui. On ne peut plus se contenter de compléter le dispositif.
Alors voilà trois points de vue qui se complètent justement sur l'évolution du ministère de la Culture, l'évolution souhaitable. Bernard Latarger, est-ce que, pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas Bourriaud, cette opposition entre Paris et les régions ou la province, qui est un mot en effet moins joli à employer, il est toujours aussi vive. On a pu critiquer, par exemple, j'ai pu lire que lorsque vous avez coordonné ce plan, hein, Culture près de chez vous, qui a été voulu par Françoise Nyssen, on a dit « Ah, c'est une façon pour Paris de diffuser en région les productions des grandes institutions parisiennes et pas du tout de s'appuyer sur un tissu local pour faire émerger des productions culturelles ».
Oui, cette critique qui a été exprimée par beaucoup d'acteurs au moment de la présentation du plan, elle est beaucoup plus liée à une erreur de communication que un défaut de conception. C'est vrai qu'on a donné le sentiment qu'il s'agissait de demander aux très grandes maisons parisiennes d'accroître leur effort d'irrigation du territoire, toujours dans cette logique parisienne descendante. En fait, le vrai contenu de ce projet consistait d'ailleurs, comme l'évoquait à l'instant Nicolas Bourriaud, et comme je le disais, à développer en complément de l'ensemble du réseau d'équipements qui existe, une logique de projet de territoire dans un mouvement beaucoup plus ascendant. Je suis frappé au terme de ces deux tours de France que j'ai fait récemment par la quantité et la diversité des innovations, des changements justement de modèles, de méthodes, de projets spontanés qui ne sont pas téléguidés par le ministère de la Culture, le protocole des nouveaux commanditaires avec la Fondation de France, l'itinérance croissante de projets dans toutes les disciplines, l'éclosion de ce qu'on appelle aujourd'hui les lieux intermédiaires, ces lieux hybrides, polyvalents, d'économie
mixte, ces nouveaux projets d'accueil du public utilisant les nouvelles technologies.
Et qui sont de nature à revitaliser, selon vous, la production culturelle et la façon, et notamment la question budgétaire, hein, qui évidemment est souvent centrale sur ces questions-là.
J'observe d'abord que ce foisonnement d'initiatives novatrices, originales, elle se développe à budget constant. C'est pas avec des moyens budgétaires supplémentaires du ministère de la Culture ou des collectivités locales que ce foisonnement se fait. Il se fait à partir des moyens qui existent. Il se fait en utilisant différemment, de façon originale, dans les modes de programmation, dans les modes de production, dans les modes de coopération entre les acteurs, dans les modes de financement, moins exclusivement dépendants des financements publics, ou en tout cas de financements publics dominants, que ces innovations se développent. On va peut-être parler de déconcentration puisque vous l'évoquiez. Un des avantages de la déconcentration, c'est pas...
Est-ce que vous pouvez juste définir justement la différence entre déconcentration et décentralisation?
C'est très simple. La déconcentration, c'est l'État. C'est l'État qui se déplace du niveau central national au niveau local. Bon. C'est l'État qui est plus proche du terrain, plus proche des acteurs, plus proche des activités, plus proche des manifestations. La décentralisation, c'est l'État se décharge de ses compétences et de ses moyens au profit des collectivités locales. Donc c'est complètement différent. La déconcentration, c'est pas moins d'État, c'est un État plus près.
Bon. Eh ben écoutez, justement, je crois que c'est l'une des craintes exprimées par le Syndéac, dont vous êtes le vice-président Jean-Paul Angot, c'est que justement on soit plus face à une décentralisation qu'à une déconcentration, notamment à travers la question des labels, hein, scènes nationales, centres chorégraphiques nationaux, dont vous craignez de les voir échapper, par exemple, au ministère de la Culture et être affaibli à ce titre.
C'est-à-dire que quand j'écoute Bernard Latarjé et Nicolas Bourriaud, effectivement, on a l'impression qu'il faudrait une révolution copernicienne. J'ai employé le mot province, c'est plutôt comme un terme de territoire, hein, c'était pas du tout méprisant de ma part, je suis un provincial pur jus. Par ailleurs, je veux dire, le dispositif mis en place, les scènes nationales et tous les labels qui ont été sur tout le territoire agissent et ne sont pas du tout dans des situations de non prise en compte de la réalité de leur territoire. C'est même leur cheval de bataille chaque journée, donc elles participent à cette innovation. Donc la question de la déconcentration, en fait, c'est ce que disait très justement Bernard, c'est comment l'État est plus près dans ses interventions. Il existe déjà les directions régionales d'affaires culturelles, donc c'est de transférer à celles-ci certaines prérogatives. Mais le ministère, il est déjà déconcentré à près de 80%. Donc la crainte, c'est qu'après, cette chose se transforme en décentralisation et qu'un transfert de compétences. Bon, tout ça est un jargon entre parenthèses administratif. Mais derrière ça, il y a l'équilibre État-collectivité qui se joue, parce que l'État doit rester fort en région. Il l'est déjà par les directions régionales des affaires culturelles, mais qu'on sait très bien que par ailleurs, les enjeux locaux imposent de se battre quant aux prérogatives politiques des uns et des autres. Il y a plusieurs manières de faire une politique culturelle. Ce que je voudrais redire par rapport à tout ce qui se dit là, c'est qu'on parle un peu technique. On parle aussi de paradigme, d'innovation d'un côté. Moi, je pense que ce qui est important, et je suis totalement d'accord avec le fourmillement d'actions qui a lieu partout, c'est que c'est aussi la question de l'artistique qui se joue et de la possibilité aux équipes artistiques d'être au plus près et d'être en réalité sur certains territoires. Le plus large n'est pas simplement concentré dans les grandes métropoles ou les grandes cités ou dans les zones les plus riches. Et effectivement, je pense que c'est l'artistique qui a le plus... L'inquiétude, si elle est, et elle est réelle, c'est sur les moyens dévolus à l'artistique. J'entends bien la question d'un périmètre d'argent et des choses qui existent à un périmètre constant. Néanmoins, il faut absolument revitaliser de ce point de vue-là l'emploi artistique, quel qu'il soit. Et je ne parle pas spécialement de l'emploi permanent de toutes nos maisons. C'est l'activité artistique, ce sont les équipes artistiques qui feront cette innovation et qui feront la possibilité de l'émancipation de nos citoyens tel que le redit Franck Riester, ou comme le disait André Malraux.
André Malraux, Franck Riester, Nicolas Bourriaud, justement, le musée, le MoCo, hein, c'est à la fois un centre d'art contemporain, donc qui est très proche de la création, c'est aussi l'école des beaux-arts de Montpellier, et je l'ai dit, ouvert récemment un musée du collectionneur. Vous êtes très attentif, vous, à cette question de la médiation, c'est ce que vous aviez mis au cœur, notamment quand vous aviez travaillé sur le projet du Palais de Tokyo, la question de la médiation avec les publics, de créer des nouveaux publics, de les toucher justement par la création contemporaine. Et encore une fois, est-ce que, selon vous, le ministère de la Culture a une place centrale dans ce dispositif, ou est-ce que ça peut passer par d'autres biais, et notamment des biais plus locaux ?
Ben, en l'occurrence, en fait, je peux vous parler de mon expérience particulière, en fait, puisque effectivement, le regroupement de ces trois entités sous l'égide de Montpellier Contemporain, du MoCo, c'est une stratégie qui a été élaborée avec le maire de Montpellier et président de la métropole de Montpellier, Philippe Sorel. Et il n'y a pas de participation de la région dans le fonctionnement de cette institution. Et l'État ne participe pour le moment que pour ce qui est de l'école. Donc c'est vraiment un projet qui a été fomenté et élaboré en fait à un niveau tout à fait local. Et Bernard Latarjé parlait d'initiative et d'innovation. Je pense qu'on a constitué justement une sorte d'écosystème qui va de la formation jusqu'à la collection, en passant par, vous l'avez dit, la médiation, mais aussi la production des œuvres et leur exposition. Et c'est ce type d'innovation qui aurait été beaucoup plus complexe, effectivement, à mener dans un cadre étatique. Je pense que c'est très important de voir aussi que ce niveau local permet l'émergence d'autres possibilités d'expérimenter, même administrativement. Et je pense que ça, c'est absolument fondamental. Jean-Paul Angot parlait de l'ancrage local, de l'artistique. Et ça, c'est absolument capital. Et c'est précisément un des buts de cette nouvelle institution. Pour la première fois l'année dernière, 100% des étudiants de l'École des Beaux-Arts sont restés pour leur deuxième cycle, en fait, à Montpellier. On voit aujourd'hui des diplômés de cette même école qui restent sur le territoire. Et je pense que c'est ça la clé de la décentralisation, la vraie décentralisation. C'est pas une irrigation de l'ensemble du territoire par une source qui serait Paris, mais c'est la création de scènes régionales, de scènes territoriales. Et s'il n'y a pas cette scène, cet écosystème qui vient se créer avec ses différents acteurs, avec ses métiers, comme le disait Jean-Paul Angot, là, on aura perdu. Et je pense que c'est l'enjeu fondamental de cette nouvelle conception de l'occupation du territoire français, qui dépasserait le cadre justement de Paris-Province, c'est précisément ça. C'est la création de scènes vivantes et qui fonctionnent comme de véritables écosystèmes.
Des écosystèmes régionaux, c'est possible évidemment, par exemple, autour de Montpellier, avec Nîmes, Arles, Avignon et même Marseille, si on est en vraiment très très loin, la zone, Nicolas Bourriaud. Parlons quand même aussi de ce qu'a voulu faire, de ce que veut faire Emmanuel Macron, qui avait promis pendant la campagne présidentielle de réinventer la politique culturelle. Alors là, récemment, le ministre Franck Riester a indiqué trois projets pour les trois ans à venir, trois projets principaux évidemment, des bibliothèques qui ouvriront davantage, le fameux pass culture dont il faut parler tout de même, c'est-à-dire 500 euros pour les jeunes de 18 ans pour avoir accès à la culture, et enfin l'éducation artistique et culturelle qui vous est chère, j'en suis sûr à tous, et vous particulièrement Nicolas Bourriaud. Juste un mot sur ce pass culture, si vous le voulez bien, Jean-Paul Angot, c'est un pass culture qui était quoi, un gadget ou une véritable opportunité de démocratisation selon vous ?
Alors, c'est ni l'un ni l'autre. C'est une volonté de mettre en œuvre quelque chose qui serait l'incitation à consommer, entre guillemets, puisque c'est délivrance d'un argent, d'un portefeuille, hein, d'un porte-monnaie pour pouvoir avoir accès ou telle activité en espérant que celle-ci se répartisse équitablement. Bon, ça touche les jeunes gens de 18 ans. Donc, il existe déjà des chèques culture un peu partout en France. Donc, la seule possibilité qu'on puisse se dire, c'est déjà qu'il serait bien d'harmoniser tout ce qui se fait par ailleurs. Et puis, d'autre part, moi, quand je multiplie 800 000 jeunes de 18 ans par 500 euros, j'atteins une somme astronomique de 400 millions d'euros. Donc, on parlait de budget constant tout à l'heure, enfin, de faire avec, et là je suis un peu réservé, voire même très réservé. Mais
qui ne porterait pas que sur le budget du ministère de la Culture, hein, si j'ai bien compris, il y aurait quand même des partenaires.
Mais comme justement on est bien en train de se dire que les collectivités pourraient en être, ou l'interministériel, ou enfin trouver le financement de cette manifestation.
Des partenaires privés aussi, hein, j'entends, on parle de Canal+, par exemple.
J'entends bien, mais qui dit... Moi, je ne suis absolument pas, comment dire, contre le partenariat public-privé, etc. Mais la question, c'est comment évaluer l'efficacité de cet engagement et comment le coordonner avec d'autres initiatives qui ont lieu. Moi, je suis favorable à l'incitation, de toute façon, à ce que les mômes, parce qu'il s'agit de ça, puissent avoir accès à tout un tas d'outils. Mais si c'est juste pour qu'ils consomment tel ou tel jeu, et que l'éducation artistique et culturelle, qui est l'enjeu, et je suis tout à fait d'accord avec Nicolas Bourriaud, comment faire en sorte que cet outil-là soit fléché à cet endroit-là. Il y a sûrement une discussion à avoir. Mais il y a une réserve, a priori, sur le montant global généré par cette chose. Voir exactement ce que c'est. Pour le moment, le profil, il y a une expérimentation qui a lieu sur 14 départements. On suit ça de très près. Et moi, je veux avoir des critères d'évaluation avant de me prononcer définitivement sur cette chose, même si je suis réservé par ailleurs.
A priori réservé. Je voulais justement faire réagir Nicolas Bourriaud. Je ne sais pas si vous voulez réagir sur le Pass Culture ou sur ce qu'il faudrait faire, hein, sur ce qui est quand même un petit peu le serpent de mer de l'éducation artistique en France, même si les choses semblent bouger ces derniers temps. Nicolas Bourriaud, est-ce que vous avez l'impression que le ministère de la Culture, là-dessus, va dans le bon sens?
Le Pass Culture, c'est certainement une excellente mesure pour le pouvoir d'achat, davantage que pour la culture. La question, parce qu'il faut voir ça dans un cadre plus global, dans un contexte beaucoup plus global, qui est plus celui de l'accessibilité, comme je le disais en préambule. L'accessibilité, elle est aujourd'hui massive. L'accessibilité, c'est une question de pouvoir d'achat. Et effectivement, le Pass Culture, c'est une mesure pour le pouvoir d'achat. Au-delà de ça, le rôle du ministère de la Culture, à mon avis, doit excéder cette question du pouvoir d'achat, puisque la question, c'est celle du filtre. À quoi on a accès et pourquoi? Et c'est ça, en fait, le véritable enjeu, à mon sens. La question, c'est plus aujourd'hui celle de l'accessibilité, c'est celle de la navigation à l'intérieur d'un océan de signes, d'un océan de produits, d'un océan de spectacles, d'expositions, etc. C'est la question de l'hyperproduction contemporaine. Personne ne semble vraiment s'en charger. Et je pense que c'est à partir de cet axe-là aussi qu'il faut reconstruire une stratégie pour le ministère de la Culture.
Bernard Latarger, Jean-Paul Angot disait, un peu comme ce qu'a dit Jack Lang hein, récemment, c'est une approche consumériste de la culture, ce passe culture. Alors, il a rappelé également que pour l'instant, on n'a pas les résultats des expérimentations qui ont été menées, et donc on ne sait pas forcément vers quoi se tournent justement ces jeunes de 18 ans à qui on confie un chèque de 500 euros pour l'année. Est-ce que, malgré tout, selon vous, c'est l'un des signes aussi d'une autre évolution du ministère de la Culture, c'est une évolution plus commerciale, consumériste, se tourner vers des produits culturels qui n'étaient pas forcément ceux que André Malraux avait en tête lorsqu'il parlait d'élever l'esprit?
Je ne crois pas. Je pense que l'évolution la plus importante dans ce domaine de l'accès à la culture, c'est l'évolution d'une conception traditionnelle de la démocratisation. C'est-à-dire, voilà, on va chercher les publics, on les met en contact avec les œuvres exemplaires de nos cultures et de civilisations, et le miracle de l'émancipation se produit. Donc ça, c'est la logique de la démocratisation dont on connaît les limites. Olivier Donat, le patron du service d'études du ministère, avant de quitter le ministère, disait nous avons tendance à surévaluer le pouvoir des œuvres. Bon, et c'est ça l'évolution, c'est le passage de cette idée traditionnelle mais limitée de la démocratisation à la démocratie, c'est-à-dire d'une logique plus consumériste, comme vous disiez, j'utilise le terme volontairement provocateur, à une logique plus participative, où le citoyen est plus acteur de sa propre culture, par l'enseignement, par la pratique, pratiques amateurs, pratiques à l'école, par la participation dans certains cas à la programmation des établissements, des manifestations, par le développement du bénévolat. Combien de festivals aujourd'hui ne fonctionneraient pas s'il n'y avait pas... Bref, ce passage de la démocratisation à la démocratie, c'est une évolution, me semble-t-il, de fond. Elle ne va pas du tout dans le sens d'un accroissement du consumérisme, au contraire.
Non, mais je pense que Bernard Latarjé, ce qui est aussi en cause dans cette critique, c'est toute la discussion qu'il y a autour du mécénat, par exemple, et du rôle de plus en plus important des intérêts privés, en tout cas de l'argent privé, et donc de la possibilité pour des acteurs privés de choisir de faire des œuvres de politique culturelle.
J'ai pratiqué dans une vie antérieure, j'ai pratiqué le mécénat à la tête de la Fondation de France. Donc moi je suis un apôtre du mécénat et je fais absolument confiance aux directeurs des établissements, aux chefs de projet et aux artistes pour ne pas devenir les instruments d'intérêt privé.
Bah merci, écoutez, rendez-vous dans 50 ans pour les 110 ans, alors dans 40 ans plutôt pour les 100 ans, comme ça c'est moins loin, du ministère de la Culture. Le magazine du week-end, c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est Julie Gacon qui sera à ce micro. Quant à moi, je vous retrouve samedi 31 août pour une nouvelle saison d'Avis Critique. Demain dans les matins, il sera notamment question dans la partie culture du financement du cinéma français à l'occasion de la nomination controversée du nouveau président du CNC. Un immense merci à toute l'équipe qui m'a accompagné tout ce mois de juillet, à la programmation Chloé Rossignol, à la coordination DJ Hugo Boursier, préparation Isée Sorel et Benjamin Teinturier, à la réalisation c'était Charlotte Roux tout ce week-end, et à la prise de son Jacques Hubert et Pierrick Monsigny. 13h50 sur France Culture, il est temps de retrouver Les Idées Claires par Nicolas Martin. Aujourd'hui, réchauffement climatique, est-il déjà trop tard?